L'asile est-il encore un droit? C'est le thème de la conférence de Malena Pizzanelli, doctorante à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, que nous vous proposons aujourd'hui. L'asile est-il encore un droit? Conférence donnée lors du Rassemblement régional de la CAT, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, le 16 novembre 2024 à l'abbaye de Belloc. L'asile est-il encore un droit? Malena Pizzanelli.
Je suis Malena Pizzanelli, doctorante en bientôt quatrième année de droit à la faculté de Bayonne. Donc mon sujet de recherche répond directement à cette interrogation et c'est pour ça que il a très tout de suite résonné en moi. Donc ma thèse porte sur les atteintes aux droits fondamentaux des migrants et plus particulièrement sur le traitement différencié des migrants sur le territoire et en dehors du territoire de l'Union européenne. Donc, traitement différencié qui prend toute son importance au vu des événements récents tels que la directive de protection temporaire qui a été activée, par exemple, pour les Ukrainiens, alors qu'elle existe dès la fin du conflit en ex-Yougoslavie. Traitement différencié dès lors que il y a un traitement donc inéquitable ou en tout cas inégalitaire qui peut s'observer entre différentes nationalités de ressortissants d'États tiers. Donc, assez parlé de moi. Donc, ce sujet, évidemment, a résonné en moi parce que se confronter directement à ce qui est un droit, ce qui constitue un droit, c'est commun et perpétuel dans mes recherches, surtout en matière migratoire. Qu'est-ce qu'un droit fondamental? Très, très rapidement, sans vouloir une légère théorisation du droit, juste pour se situer, moi, ma matière en tant que juriste. Donc, qu'est-ce qu'un droit fondamental? Un droit humain, un droit universel. Donc, le terme même d'universalisme est souvent remis en question. Même aujourd'hui, il peut paraître désuet. Garde-t-il sa pertinence quand on parle d'universalisme au profit de la diversité préférée à une vision universelle qui ne répondrait qu'à une vision européenne, centriste, ethnocentriste, donc sans partir dans de l'ethnologie juridique. Ce sont des concepts qui flirtent entre la philosophie, la morale et le droit. Donc ces droits primaires supposés attachés intrinsèquement à la nature humaine, à la personne humaine, dans toute sa diversité, existent-ils même? Donc c'est pour ça que je vous ai formé un petit schéma avec un iceberg. Donc, selon les mots de Mallarmé, la mission du poète est de donner un sens plus pur aux mots de la tribu. J'estime que le but, ou en tout cas, ce qui peut être assigné aux juristes, vaut tout particulièrement pour l'expression « droit de l'homme ». Il est alors nécessaire, pour effectuer une approche technique, juridique de la matière, de bien distinguer les différentes strates, les différents niveaux d'analyse de la notion, qu'est-ce qui est un droit. Donc celui d'abord, qui va être enfoncé profondément dans le cœur de l'iceberg qui n'est pas apparent, c'est la philosophie et la morale des droits de l'homme, la source matérielle et la formulation juridique de ces droits. Plus profondément, dans une deuxième strate, ça va être l'idéologie politique, les droits de l'homme. Ce qu'on fait même maintenant, à l'heure actuelle, c'est-à-dire telle qu'elle est pratiquée par les associations humanitaires, au point de vue international ou interne, par les organisations politiques ou non gouvernementales. C'est ce qui peut sembler parfois être devenu une extrême politisation, mais qui est tout aussi essentiel pour la construction et pour les débats diplomatiques dans ce que va devenir ou ce que va créer la norme. Enfin, et la strate qui donc sort la partie émergée de l'iceberg, ce qui intéresse le juriste, c'est le droit positif des droits de l'homme, donc avec ses mécanismes de garantie qui s'y attachent. Le droit positif des droits de l'homme, en quelque sorte, c'est la partie donc émergée de l'iceberg, comme je viens de le dire, qui n'existerait pas sans ces strates inférieures. Donc, pour résumer sur cette première partie de l'introduction, qu'est-ce qu'un droit, avant même de savoir le droit d'asile est-il, enfin, l'asile est-il un droit ? Est-il encore un droit ? Donc, est-ce qu'un droit, en termes généraux, cela implique, comme je viens de le dire, non seulement l'existence théorique d'une protection, mais également son application pratique et effective. Donc, ces deux aspects vont animer ma réflexion. C'est un peu l'introduction générale. L'asile est-il un droit ? La reconnaissance d'un droit, certes, mais aussi, et parfois surtout, sa pratique, son application concrète et effective. Cela prend une importance toute particulière quand on s'éloigne évidemment de moi, la théorisation universitaire, pour entrer dans la pratique même du droit. Et c'est pour ça qu'il était intéressant de revenir sur ces fondements quand dans le titre il m'a été posé « L'asile est-il encore un droit ?» Donc l'asile, maintenant. Donc une petite citation de Rémus et Romulus. La bête fauve a l'antre pour refuge, l'esclave les autels des dieux. Quand vient l'orage, la cité cherche asile auprès d'une autre cité. Rien n'est stable, en effet, dans la fortune humaine. Ça, c'est une cri d'angoisse et d'espérance qu'on accorde à Euripide quand il implore la pitié de Thésée, qui semble fondée, dès la mythologie, à travers les siècles, ce qu'on appellerait le droit d'asile. Donc étymologiquement, très rapidement, je regarde mon temps, c'est bon. Le mot asile est dérivé de l'adjectif grec qui désigne ce qui ne peut être pillé, ce qui est inviolable. L'asile, en étant inviolable, est comme tel un lieu de refuge. Aussi, l'asile est-il d'abord, dans les anciennes civilisations, une manifestation de piété, de superstition, voire de crainte. L'homme qui se réfugie dans le temple fait appel aux dieux. Il est affranchi du pouvoir humain, il ne relève plus de la justice humaine. Bon, là, c'est la partie, comme je vous l'avais dit, cette première strate philosophique, morale. Mais l'asile apparaît aussi comme un droit tutélaire des sociétés naissantes. Donc les faibles, les vaincus, les bannis, les obligés, ceux qui sont obligés de fuir leur camp, leur ville, pour sauver leur vie. Il s'allie autour d'un autel sacré, de nouveau, ce lieu inviolable, un dieu nouveau, et y forme le noyau d'une nouvelle cité. D'où justement l'exemple de Rémus et Romulus qui quittèrent Albe. Il convient de souligner que la pratique de l'asile donc existe depuis, même si des temps immémoriaux, depuis la nuit des temps, ou en tout cas depuis aussi longtemps que les civilisations existent. Elle remonte à la plus haute antiquité, et cette longue tradition qui bénéficiait aux criminels de droit commun, mais aussi aux délinquants politiques, aussi bien qu'aux personnes vulnérables en demande d'asile. Donc évidemment, là, il ne s'agit pas de retracer dans toute l'Antiquité, dans tout le début, la création des civilisations et des cités, ce qu'est un droit d'asile et comment est constitué le droit d'asile, mais juste à travers ce bref aperçu historique, mythologique, dans les mythes. Il s'agit juste de comprendre que la matière est difficile à saisir dès lors qu'elle englobe une multitude d'idées, de concepts moraux, philosophiques, et qu'elle, en tant que juriste, on va essayer de chercher ce qui constitue vraiment, en tout cas ce qui précise les éléments constitutifs de la matière. Donc c'est là où le droit et l'asile vont se mêler. Mêlons à présent donc ces deux notions. Qu'est-ce qu'un droit ? Qu'est-ce que l'asile ? Et donc, premier élément, toujours dans l'introduction, est-ce que déjà le droit, l'asile, est un droit ? Donc, d'un point de vue juridique, la question est de savoir dans quelle mesure il convient de parler de droit d'asile. L'asile suppose initialement une relation entre deux États, deux pays, l'État d'origine de la personne et l'État d'accueil qui lui offre sa protection. Évidemment, dans les faits, dans le parcours migratoire, il y a bien plus que deux États qui vont être confrontés à ces problématiques et en tout cas à l'accueil réel du demandeur d'asile, sachant les autres pays qu'on peut appeler pays de transit, mais on reviendra sur cette notion plus tard. Donc la question est donc de savoir, droit d'asile y a-t-il, droit effectif existe-t-il ? Est-ce qu'un pays a le devoir d'accueillir les personnes qui demandent l'asile ? est-ce qu'un pays a le droit ou l'obligation d'accorder ou de refuser l'asile? Donc, historiquement, pour retracer le droit d'asile dans sa construction, prenons l'exemple de la France, qui se proclame terre d'asile. Donc, encore une fois, historiquement, en tant que telle, la France est la première nation européenne à consacrer ce droit à part entière, en tant que droit d'asile. Au sein de la Constitution montagnarde du 24 juin 1793, elle proclame, au nom du peuple français, il donne asile aux étrangers et leur patrie pour la cause de la liberté. Il le refuse aux tyrans. Donc cette formulation semble indiquer qu'il s'agit d'un droit de l'individu comme une obligation envers la nation, pour la nation. Et en d'autres termes, la France se devrait d'accueillir les exilés, quelles que soient leurs origines. Cette proclamation est ancrée, évidemment, vous le ressentez, 1793, dans la Révolution française. Ça fait écho, un écho considérable au niveau, même en dehors des frontières nationales, et elle a posé les fondements théoriques de cette conception humanitaire du droit d'asile. Cependant, évidemment, cette vision généreuse a connu des fortunes dès lors qu'on est toujours au cours du 19e et donc que se suivent, que s'enchaînent, que les épreuves du temps amènent des conflits, les révolutions au sein même de l'ancienne Europe et ont mis à l'épreuve, d'une manière générale, la capacité de la France à honorer cet engagement. Les politiques migratoires ont fluctué et continuent d'ailleurs à le faire au gré des politiques, des contextes politiques et économiques oscillant entre des périodes d'ouverture et de fermeture des frontières. D'un point de vue historique, il faudra réellement, pour la proclamation, encore une fois, d'un droit d'asile, attendre l'après-Seconde Guerre mondiale pour assister à une véritable renaissance du droit d'asile. Donc, évidemment, ce que la société internationale a vécu, a vu, a enduré les horreurs du nazisme, du fascisme qui ont bousculé l'Europe et le monde plus généralement dans sa globalité, ont profondément marqué les consciences et suscité une volonté internationale de prévenir de nouvelles tragédies humanitaires. Donc sans reprendre la création de la Société des Nations qui s'est transformée en l'Organisation nationale en l'Organisation des Nations Unies, il faut juste comprendre que face à l'ampleur des crimes commis, la communauté internationale a eu le besoin, a senti le besoin, a pris conscience de besoin de s'organiser et de prévenir ces tragédies. La création des Nations Unies, donc sans revenir sur la SDN, etc., parce que on n'a pas le temps, en 45, a marqué une étape dans cette démarche. Donc cette organisation, vous la connaissez, a pour mission de maintenir la paix, la sécurité internationale, de développer les relations amicales entre les nations, réaliser la coopération internationale, mais surtout ce qui nous intéresse, de promouvoir le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous. Et donc c'est dans ce contexte que la Convention de Genève relative au statut des réfugiés a été adoptée. Donc c'est le fameux article qui est affiché, qui est vraiment l'article fondateur, fondamental au niveau international, qui a un impact direct, on le verra, sur l'Union, sur la construction du droit communautaire et du droit interne. C'est ce texte fondateur qui a défini le statut de réfugié, qui établit les principes de la protection internationale, et énoncer les droits et les obligations des États parties. Cependant, et si vous vous concentrez, si on a le temps de le lire un peu dans le texte, ce qui pose problème, c'est la complexité de l'écriture et surtout les interprétations qu'il laisse percevoir. Et c'est souvent le problème et l'avantage du droit international, c'est qu'à la fois, il pose des fondements suffisamment clairs, mais d'un seuil minimal pour essayer d'imposer des droits fondamentaux, mais cette interprétation suffisamment large fait que forcément les États l'interprètent un peu comme ils le veulent. Pas comme ils le veulent, évidemment, et il y a des contraintes. Mais d'un texte trop large, on en vient à des interprétations évidemment différenciées entre les États. Par exemple, typiquement dans ce texte, ce qu'on lit, c'est qu'il n'y a pas le terme d'asile ou de droit d'asile qui est directement cité en tant que tel. Il n'accorde pas l'asile à l'étranger qui le sollicite. L'obligation qu'il impose, que cet article impose aux États parties, c'est de ne pas refouler l'intéressé vers les frontières des territoires où sa vie et sa liberté est menacée. Et donc c'est là où on voit la différence. C'est pas directement le droit d'asile, c'est le principe qui est énoncé, le principe qui est protégé, c'est le principe de non-refoulement. Ainsi, l'asile défini en tant que tel est le fait pour un État, en effet, d'accorder sur son sol la protection à un ressortissant d'un État tiers, fuyant son pays pour des raisons de persécution ou de danger grave. Et ça, le protocole additionnel de la Convention le précisera. Donc l'asile dans son ensemble englobe en réalité le principe de non-refoulement, l'autorisation ou pas accordée par l'État de demeurer sur le territoire du pays d'accueil et des normes de traitement humain. Donc, revenons et finissons sur cette introduction qui est toujours assez longue dans mes présentations mais qui me semble essentielle pour comprendre et englober et saisir le sujet. La question de savoir est-ce que l'asile est-il encore un droit ? En l'espèce, j'ai envie de préciser que la question, en fait, c'est de savoir, peut-on véritablement parler d'un droit d'asile effectif, et non pas seulement théorique, ou celui-ci, ce droit, est devenu une notion donc purement théorique, du fait des restrictions dans son application, tant dans la construction même du droit international, qu'au niveau européen, que dans son application en droit interne. Bon, c'est un peu ambitieux, mais je vais essayer d'aller un peu plus vite. Donc, une nouvelle fois pour juste situer la matière et comprendre l'objet et l'intérêt de ce sujet, c'est que cette interrogation se concentre sur le droit comme impliquant une obligation juridique et une protection effective. Dans ce contexte, se poser la question de savoir si le droit d'asile et toujours un droit, revient à demander, comme je l'ai dit, si les États respectent et appliquent encore les obligations qui ont souscrites dans ce domaine. Donc ce qui fera l'objet de la première partie sur le point de vue européen et perspective européenne. Et dans un deuxième temps, il s'agira de souligner la dimension évolutive de ce droit. Forcément, l'asile était autrefois perçu comme un impératif humanitaire, mais perçu d'un point de vue utopique, d'un point de vue de position théorique, de défense des droits de l'homme. Aujourd'hui, la montée politique sécuritaire et restrictive pose la question de sa visibilité réelle en tant que droit effectif. Et donc, ce sera l'objet de la deuxième partie sur vraiment l'application en droit français, droit national. Alors, là, ça va vous faire peut-être un peu peur, mais on va pas reprendre les textes dans leur ensemble, évidemment. Là, c'est vraiment juridique. Enfin, ce sont une image globale de la construction de la politique d'immigration, la politique migratoire au sens de l'Union européenne. Évidemment, on va pas reprendre chaque texte les uns après les autres et comprendre les compétences, les critères, parce qu'on n'a pas le temps et ce serait peut-être pas forcément opportun. Juste comprendre que donc, comme je l'ai dit plus tôt, l'européanisation des règles en matière de droit d'asile découle directement de la Convention de Genève, comme on l'a dit. Mais, comme vous le voyez, il faudra attendre quand même 99 pour qu'une véritable politique soit mise en place, de véritables droits soient accordés ou non, en tout cas, dans la construction européenne de la politique migratoire. Pourquoi 99 ? Encore une fois, peut-être pas. En tout cas, on va pas reprendre l'intégralité de la construction européenne dans son ensemble, mais très rapidement, l'Europe ne s'est pas construite pour un objectif. Enfin, En tout cas, l'objectif de l'Europe première a été une construction, une unité monétaire. Elle a été une unité monétaire et donc, dans ce sens, réduire les frontières internes progressivement jusqu'à les repousser à l'extérieur, donc, des États parties, pour assurer le marché européen dans son ensemble, la construction du marché européen. C'est seulement par le biais du marché que s'est construit parallèlement, mais plus tardivement, l'espace qu'on va appeler, ça peut paraître un peu lourd, de liberté, de sécurité et de justice. Parce que forcément, si on arrive à déplacer les marchandises, si on a un intérêt économique à déplacer les marchandises, il faut bien comprendre que les marchandises ne se déplacent pas toutes seules. Et c'est pour ça que progressivement, même si ça n'a jamais été, ça n'a pas été dans les premiers textes l'objectif premier de l'Union, c'est un fait que les marchandises amènent les populations, que la prise en compte des populations et de leurs droits est fondamentale, que le droit du travail, le droit social doit aussi être pris en compte. Et ça, tout ça, c'est la construction des droits politiques, sociaux, économiques, jusqu'à amener le regroupement et donc prendre en compte dans son globalité, si on repousse nos frontières, entre nous, on est forcément confronté à des frontières extérieures qui sont censées être communes. Et donc, comment construire, comment gérer l'afflux potentiel de migrants, de réfugiés, et plus précisément dans le sujet qui est posé, de demandeurs d'asile, dès lors que nos frontières extérieures sont communes. Donc, on va accélérer sur la directive, donc le traité d'Amsterdam qui pose et qui intègre directement l'asile dans les compétences de l'Union. Donc ce qu'il faut comprendre de manière générale dans le droit de l'Union, c'est le jeu des compétences. Comment sont partagées les compétences entre les États parties à l'Union européenne et l'Union européenne dans ses commissions, dans son Parlement, dans ses organes institutionnels et opérationnels. Et ce qu'on remarque au fur et à mesure de ces réformes, c'est qu'en fait, les États ont énormément de mal à donner compétence à l'Union, à partager leurs compétences et à les partager du point de vue plus schématiquement, le territoire, le droit national et la conception même de ce qui est un national et ce qui est un étranger est intrinsèquement lié à la souveraineté de l'État. La souveraineté de l'État qui constitue ce qu'est un État et ce qui constitue donc son peuple, son territoire et son gouvernement. Donc, les États, dans la majeure, dans la grande majorité des cas au sein de l'Union européenne, sont attachés intrinsèquement, évidemment, à cette souveraineté et donc ont énormément de mal à déléguer, sauf d'un point de vue opérationnel. Et c'est ce qu'on remarque dans les réformes de l'espace Schengen, dans ce qui va être propre aux institutions qui gèrent les frontières, les gardes de côte, ce qu'on appelle Frontex, les organisations qui font que opérationnellement, pour la gestion et le maintien et l'ordre et la police, ça on peut s'arranger. On peut s'entendre et on peut partager nos compétences et se dire que là, je vais avoir plus de facilité à déléguer et à m'entendre d'un point de vue de coopération finalement policière. Pour autant, dans la construction même du droit, donc pour revenir sur le droit d'asile, ça va être un droit grandement lacunaire parce que cette réticence des États à donner compétence dans cette matière. Et donc, on arrive, donc, très rapidement, sans passer par toutes les directives, les réglementations. Ce qu'on doit retenir principalement, c'est le fameux règlement Dublin, qui met en place un régime d'asile grandement inégalitaire. C'est pas juste une critique générale de la matière, mais c'est un fait. Les pays de première entrée, les pays de première admission sont les pays d'accueil de la demande d'asile sont les pays de première entrée sur lesquels le demandeur d'asile arrive sur le sol européen. Donc forcément, ce sont les pays de première entrée, les pays dits du pourtour méditerranéen, qui sont les plus sollicités dans les demandes d'asile. Ce qui fait qu'on arrive depuis 2020, la Commission a mis en place ou a essayé de mettre en place une proposition pour justement réformer ce système qu'on connaît comme inégalitaire, comme mettant en un poids beaucoup trop important aux pays de première entrée, à la Grèce, à l'Italie, à l'Espagne, à Malte, Chypre, qui ne font pas partie de l'Union européenne, mais pour autant qui englobent et prennent en charge trop massivement ou en tout cas quasiment seuls, les demandeurs d'asile, et qu'il n'y a aucun système qui permettrait vraiment d'imposer une solidarité, ou en tout cas d'imposer un partage. C'est la proposition, donc, très rapidement encore une fois, de la Commission européenne dans la matière, qui, vous l'avez vu, l'a déposée en 2020, et qui, à l'heure actuelle, n'est pas encore adoptée, qui a été votée au Parlement, mais qui n'a pas encore été adoptée, et qui nous offre un texte, finalement, toujours plein de compromis, toujours rempli de compromis entre la sécurité nationale, cette souveraineté qui est affirmée, qui est protégée par les États, et un besoin humanitaire finalement qui est relayé à la seconde place de la solidarité, ce qu'on appellerait une solidarité à la carte finalement, des mécanismes de relocalisation flexibles, un manque de contraintes directement et pour aller plus simplement pas un énorme changement. Enfin, en tout cas, le pacte en tant que tel est assez compliqué dès lors qu'il dit tout sans rien dire, il confond tout sans vraiment nous apporter de réelles réponses et sans vraiment assurer un réel changement par rapport au système Dublin. Donc, il est assez usant dans la matière et assez fatigant de compromis qui n'apportent finalement une solidarité assez insuffisante. Et en dehors même de ce qui pourrait être mis en place au sein de l'Union européenne, en fait, on est aussi face à une externalisation du traitement des demandeurs d'asile. Donc, externalisation comment ? Par la multiplication, tant du point de vue de l'Union que de ses États membres, du traitement des demandeurs d'asile par ce qu'on appelle des accords bilatéraux. C'est-à-dire qu'au lieu de passer par des accords généraux qui lieraient les États entre eux au sein de l'Union européenne, on est face à une multiplication. Donc, vous avez sans doute entendu parler des accords d'Ankara avec les premiers accords qui nous déchargeaient notre charge et de notre flux migratoire par la Turquie. Aujourd'hui, on est face à une multiplication de ces accords avec les pays d'origine. Des pays qui ne respectent pas, ou peu, évidemment, en tout cas pas au même titre que les États de l'Union européenne, les contraintes, les droits qui sont posés par les chartes et les droits fondamentaux posés par l'Union européenne. Donc, une externalisation des flux, une externalisation du contrôle, une externalisation du droit d'asile en tant que tel, qui perd toute sa substance, dès lors que l'asile, comme on l'a dit en introduction, est rattaché à la terre et rattaché au territoire, on arrive à externaliser dans des pays de transit ce contrôle et ces mécanismes de prise en compte ou non de demande d'asile. Donc, je l'ai dit très brièvement, les différentes avancées et surtout les reculs au sens de l'Union européenne. Maintenant, le droit d'asile en France, enjeux et politiques, défis et perspectives. Alors, ce schéma était, encore une fois, avant la nouvelle réforme qui a eu lieu en janvier 2024. Pour autant, ça marque quand même un point qui est encore assez intéressant sur le recul de la protection et en tout cas du respect des droits fondamentaux, dans le sens où, évidemment, la France, le droit national, suivent les recommandations et les directives et appliquent en leur sein les directives européennes. Mais sont tout aussi soumises à, ou en tout cas pas soumises, mais enclines à répondre finalement aux mêmes peurs, à la même opinion publique, aux mêmes, comment dire, à des réformes qui tendent également vers une restriction et une standardisation du droit d'asile, dans le sens où donc les réformes successives tendent vers un raccourcissement des délais ou vers une simplification des procédures, dans le sens où pour aller plus vite, pour réduire les procédures d'appel, alors que profondément dans la pratique même de la demande d'asile, on se rend compte que ces procédures ne viennent pas assurer un droit suffisant et dire plus vite ça sera pris en charge et plus vite il pourra quitter le territoire. Les renforcements de pouvoir de l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, a aussi vu ses pouvoirs renforcés. Donc au même titre que les pouvoirs opérationnels au sein de l'Union sont renforcés au sein de nos territoires, et plus particulièrement du droit national, c'est les mêmes mécaniques de demandes opérationnelles, de pratiques directement du territoire, de méthodes, de centres de rétention administratif, d'emprisonnement, qui vont être plus massivement adoptées que les droits sociaux des demandeurs d'asile. Plus schématiquement, on a un durcissement des conditions d'accueil, la limitation des aides, de l'accès aux aides sociales. Vous avez bien dû entendre parler aussi de l'AME qui est également remise en question plus récemment, le renforcement des contrôles, la facilitation des expulsions, de fait de ces motifs d'expulsion qui sont aussi élargis, notamment pour les personnes condamnées aux infractions pénales. Bon, je vais pas, à la fois je suis partagée entre le fait de vous lister toutes ces réformes qui viennent à réduire de plus en plus et à précariser les demandes d'asile, et en même temps ce sont par ces exemples qui sont stricto juridiques qui permettent de comprendre en la matière, est-ce que l'asile est-il encore un droit? Oui, théoriquement. Dans la pratique, il est de plus en plus limité. Il est de plus en plus limité parce qu'il est de plus en plus affecté par ces réformes successives et cette atteinte directe. Donc, sans parler de l'instrumentalisation des demandeurs, des dégradations forcément des conditions d'accueil, les enjeux sécuritaires. Bon, tout ça est un portrait assez réaliste, mais c'est triste. On peut quand même apporter quelques nuances. Je suis pas venue vous parler juste du fait que les réformes se succédant, on part de la théorie humaniste à des principes plus réels qui se concrétisent par des politiques sécuritaires. Et en même temps, c'est aussi un équilibre à trouver objectivement par les États entre ce qu'ils sont capables d'accueillir et comment protéger le territoire. Mais en réalité, on fait face à une criminalisation de la migration. On fait face à un mélange de sens et une assimilation entre criminels, délinquants et migrants. Dès lors, d'un point de vue général pour la migration, et c'est encore plus soucieux et regrettable quand on parle de demandeurs d'asile. Comment finir sur ce bref aperçu tant européen que dans nos réformes françaises? Donc c'est que certes, ce droit est fragilisé, mais le droit existe toujours. Juridiquement, ce droit existe. Mais sa mise en œuvre est souvent entravée par des politiques, comme je l'ai dit, restrictives, un manque de solidarité internationale, une solidarité qui se fait au bon vouloir des États. Donc on remarque, en fait, il peut aussi y avoir comme solution le fait de, finalement, ne pas s'entendre tous et de ne travailler, la méthode des petits pas de l'Union européenne, de ne travailler qu'avec les États qui s'entendent. Ce qui est déjà le cas finalement aujourd'hui, même si la solidarité n'est pas imposée, la France, l'Allemagne, la Belgique ou d'autres font partie de ces États qui vont être amenés à prendre en charge ou à relocaliser en tout cas et à réadapter ces demandeurs d'asile. Ignorer le groupe Visegrad, ce qui constitue la Pologne, les nouveaux États dits parfaitement ancrés dans des politiques plus extrêmes d'un point de vue de la confrontation et la fermeture des frontières internes. Et peut-être prendre parti que les États qui sont aptes à la solidarité, finalement, vu que les textes ne l'imposent pas et ne l'imposeront peut-être jamais. La priorité est donnée au contrôle et aux frontières. Et donc, comme bilan, j'aimerais juste peut-être apporter donc ce point de vue sur un objectif. Donc là, c'est vraiment le texte, le discours qui a été, quand on revient en arrière, de la création même et de la première pierre à l'édifice de la politique migratoire. C'est donc les conclusions du Conseil européen de Tampere du 15 et 16 octobre 1999, où finalement les objectifs affichés sont assez proches toujours d'une harmonisation incluant des normes communes, une procédure d'asile équitable, des conditions minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile, ainsi qu'une méthode opérationnelle pour désigner l'État responsable. Donc tous ces outils-là, et c'est ce que je remarque aussi dans ma thèse, c'est que tous ces outils-là sont en notre possession, sont accessibles. Et peut-être utopiquement, il s'agirait simplement de s'en saisir. Je vais finir sur ce point et peut-être, j'espère pouvoir partager et échanger avec vous, parce que je suis allée assez rapidement sur pas mal de sujets, et vous poser une question plus globale sur est-ce que vous pensez que la France ou autre, ou l'Europe d'une manière générale, est prête à réaffirmer l'asile comme un droit fondamental, ou justement pour vous ça peut sembler être une solution de partager dans un groupe plus réduit. Et ce qu'on appelle aussi ces nouvelles formes de discussion dans les groupes régionaux, dans des groupes plus communautaires, dans des groupes plus rattachés à des États qui font, ou en tout cas qui peuvent avoir les mêmes, ou on espère les mêmes idéaux. Donc voilà, je vous remercie pour votre écoute.
L'asile est-il encore un droit ? Vous venez de suivre une conférence de Malena Pizzanelli, doctorante à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, conférence enregistrée lors du rassemblement régional de la CAT Pyrénées-Ouest à l'abbaye de Belloc, la CAT, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, conférence enregistrée le 16 novembre 2024.